VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 19 septembre 2017. John Lyndon et Anne Alberson en direct du studio 13 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce matin.
En République démocratique du Congo, Joseph Kabila préside l'ouverture d'un forum pour la paix au Kasaï ce mardi. Entre-temps, un groupe d'études vient de publier un rapport sur Béni.
Notre rapport révèle une réalité beaucoup plus complexe et probablement plus troublante. Pour moi, la violence autour de Béni illustre la complexité et le cynisme du conflit congolais.
Au Kenya, le système électoral devant être utilisé pour la nouvelle élection présidentielle du 17 octobre ne sera pas prêt pour cette date.
Pas moins de 193 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à partir d'aujourd'hui à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies.
Pas de référendum d'autodétermination le mois prochain au Kurdistan. Décision de la Cour suprême irakienne.
Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Dili Dico pour la Minute Éco.
Mais tout d'abord, le journal.
Le président Joseph Kabila est arrivé hier dans la région du Kasaï en proie à des violences depuis un an. Le chef de l'État congolais va participer à un forum pour la paix déjà décrié par l'opposition. Précision de Jean-Roger Bion.
La rencontre du Kasaï est un mini-congrès du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, au pouvoir RDC. Joseph Kabila doit présider aujourd'hui la séance d'ouverture de ce forum, prévu pendant 2 jours à Kananga, la principale ville du Kasaï, selon les organisateurs. L'opposition dans la province a été conviée à la réunion, mais le député Claudel Lubaya a décliné l'invitation à ce rendez-vous selon l'AFP. Eli Mputu, un porte-parole du rassemblement de l'opposition au Kasaï, a pour sa part exigé la présence du gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé, à ses assises. Ce dernier, visé par une enquête administrative après l'éclatement des violences, est retenu à Kinshasa depuis le mois de février. Ancien havre de paix comparé aux turbulences qui s'écoulent depuis 20 ans, l'est du pays, le Kasaï s'est embrasé il y a un an après la mort en août 2016 du chef coutumier Kamuina Nsapu, qui s'était soulevé contre le pouvoir de Kinshasa. Ces violences entre forces de sécurité et milices Kamuina Nsapu ont fait plus de 3000 morts selon l'Église catholique et 1,4 million de déplacés selon les Nations Unies. Deux experts de l'ONU y ont été tués en mars alors qu'ils enquêtaient sur ces violences.
Un casque bleu de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a été tué dans l'est du pays dimanche lors d'un affrontement avec un groupe armé. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné cette mort et demandé aux autorités de la RDC d'enquêter sur cet incident.
Au Nigeria, le gouvernement local de l'État d'Abia, dans le sud-est du pays, a décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre le couvre-feu mis en place pour tenter d'apaiser les violences communautaires entre les indépendantistes biafrais, la minorité Hausa et les forces de sécurité. Ce couvre-feu était en vigueur depuis la semaine dernière, de 18h à 6h, mais devait être levé dimanche soir.
Le système électronique devant être utilisé pour la nouvelle élection présidentielle kényane prévue le 17 octobre ne sera pas prêt pour cette date. C'est ce qu'a affirmé hier la société française Otmorpho en charge du fichier électoral kényan. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La société française indique qu'elle a gelé et effectué une sauvegarde du système de transmission des résultats et des kits biométriques après l'invalidation de la présidentielle. En conséquence, le système ainsi que les 45 000 tablettes biométriques utilisées lors du scrutin du 8 août doivent faire l'objet d'une nouvelle installation en vue du nouveau scrutin, explique Otmorpho. Elle a ajouté que cela représente une masse importante de travail qui ne peut être achevée d'ici le 17 octobre. La société précise avoir écrit à la commission électorale kényane pour l'en informer. Otmorpho a répété hier qu'un audit interne n'a montré aucune trace d'activité suspecte. Elle a également exprimé sa volonté de participer à un audit externe, rappelant que le jugement détaillé de la Cour suprême, qui doit préciser les irrégularités ayant entaché le scrutin, n'est pas encore connu. L'opposant Raila Odinga affirme, lui, que le système de transmission a été piraté pour gonfler les scores du président sortant Uhuru Kenyatta. Le leader de l'opposition a menacé de boycotter le nouveau scrutin si plusieurs exigences, dont la démission de plusieurs membres de la commission, ne sont pas remplies.
Au Togo, après des jours d'incertitude, le vice-président du parti présidentiel a confirmé que les membres de son parti étaient invités à descendre dans la rue les mêmes jours que l'opposition, c'est-à-dire mercredi et jeudi, pour soutenir le projet de loi constitutionnelle du gouvernement et aussi pour dire non à la violence. L'opposition avait choisi ces mêmes dates pour exiger la révision de la Constitution et notamment une limitation du nombre des mandats présidentiels.
La Tunisie a reporté sine die les premières élections municipales de l'après-révolution prévues au départ pour décembre prochain et attendues de longue date pour consolider la transition démocratique. Arguant de l'état d'impréparation du scrutin, la majorité des partis politiques était pour le report des élections jusqu'à mars 2018. Mais à l'issue de 4 heures de réunions avec des représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, ils ne sont pas parvenus à fixer une nouvelle date.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Coup d'envoi ce mardi du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. 193 chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Parmi les grands dossiers africains, la crise congolaise et la sécurité au Sahel. Mais aussi à l'agenda, la réforme de l'ONU, projet porté par le président Donald Trump. Les précisions de Jacques Aristide.
Donald Trump a déjà donné le ton hier, à la veille de sa toute première intervention à la tribune des Nations Unies. Pour lui, l'ONU doit se concentrer plus sur les gens et moins sur la bureaucratie. C'était lors de l'adoption par 126 pays d'une déclaration politique en 10 points en faveur de la réforme de l'organisation. Il s'agit d'une initiative américaine. Réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a promis que son organisation allait faire davantage pour les peuples et moins sur les procédures. L'objectif précisé dans la déclaration finale est de rendre plus efficace et performante l'organisation souvent taxée de lourdeurs administratives coûteuses. Le président américain veut voir les coûts de l'ONU fortement réduits. Washington est son premier contributeur financier, assurant notamment une bonne partie des 7,3 milliards de dollars du budget des opérations de paix. Prêt à faire des économies, Antonio Guterres a toutefois mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix menées pour la plupart en Afrique.
L'accord sur le nucléaire iranien est en jeu à l'ONU. Les Européens, France en tête, veulent tenter de le sauver. Donald Trump, lui, ne dissimule pas son hostilité envers cet accord. Il a rencontré hier à ce sujet le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a réitéré son aversion pour ce qu'il a qualifié d'épouvantable accord nucléaire avec l'Iran, dont il réclame l'annulation ou à minima la révision. Monsieur Trump s'est aussi entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, qui à l'inverse a tenté de le convaincre de ne pas remettre en cause un accord qualifié d'historique lors de sa signature en 2015.
En Irak, la Cour suprême a suspendu le référendum d'autodétermination que le Kurdistan irakien se proposait de tenir le mois prochain. Des détails avec Lionel Gaïma.
C'est à la requête du Premier ministre irakien Haider al-Abadi que la Cour a rendu son arrêt, expliquant qu'elle doit avant tout examiner la constitutionnalité du référendum. Abadi s'était à plusieurs reprises prononcé contre ce scrutin, y compris dans une interview samedi à l'agence Associated Press, dans laquelle il a mis en garde contre une dangereuse escalade qui conduirait à la violation de la souveraineté irakienne. Composée de 3 gouvernorats, la région autonome du Kurdistan irakien a régulièrement ignoré ces mises en garde et la Cour suprême irakienne n'a pas vraiment le pouvoir de faire respecter son injonction. Massoud Barzani, le président du Kurdistan irakien, soutient le projet d'indépendance. La question préoccupe au plus haut point la Turquie, qui fait face à des difficultés avec sa propre minorité kurde. Un référendum d'autodétermination de Kurdes irakiens constituerait une grave erreur, avait averti le Premier ministre turc Binali Yildirim la semaine dernière. Les États-Unis ont eux aussi exprimé leur ferme opposition à une éventuelle sécession du Kurdistan irakien.
Le Sénat américain a voté hier 89 voix contre 8 en faveur d'une hausse exceptionnelle du budget de la défense, dépassant largement ce que le président Donald Trump avait demandé. Les sénateurs ont ainsi adopté une loi d'autorisation de la défense nationale prévoyant 700 milliards de dollars de défense pour l'année budgétaire 2018 qui commence le 1er octobre prochain. 60 milliards de ce budget seront réservés pour les opérations extérieures.
Et puis le gouvernement américain a décidé de geler les ventes d'armes d'une valeur de 1,2 million de dollars au service de protection du président turc Recep Tayyip Erdogan, dont des gardes du corps s'en étaient pris à des manifestants en mai dernier, ici à Washington.
Des manifestants ont défilé pacifiquement hier dans les rues de Saint-Louis, dans le centre des États-Unis, pour la 4e journée consécutive contre l'acquittement d'un policier blanc qui avait tué en 2011 un jeune homme noir suspecté d'être un trafiquant de drogue. Au moins 80 personnes, selon la police, ont été arrêtées depuis vendredi, jour du verdict, et plusieurs membres des forces de l'ordre locales ont été blessés dans des affrontements des derniers jours avec les manifestants, pour certains armés de pierres.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Dili Dico.
En Côte d'Ivoire, 2,4 milliards de dollars d'investissement, soit 1320 milliards de francs CFA, seront nécessaires pour fournir l'eau potable à l'ensemble de la population, rapporte l'agence Ecofin. Lors de la présentation du programme Eau pour tous, le docteur Kwaku Amédé, ministre ivoirien des infrastructures, a annoncé que l'objectif du programme est de mettre définitivement fin aux pénuries d'eau tout en offrant un meilleur coût d'accès à l'eau potable. La première phase du projet prévoit la construction de 200 châteaux d'eau, l'installation de 8000 pompes villageoises ainsi que la réparation de 21 000 autres. En Guinée équatoriale, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, a annoncé ne pas être en mesure d'aider le pays dans son plan de vaccination en raison du PIB élevé par habitant de la Guinée équatoriale. L'AFP rapporte que Thierry Vincent, représentant de cette organisation suisse, a déclaré jeudi dernier, lors d'une réunion à Malabo, que seuls les pays dont le revenu par habitant est inférieur à 1 580 $ peuvent être soutenus par le Gavi. Or, la Guinée équatoriale a l'un des PIB par habitant les plus élevés d'Afrique, avec 8 300 $ par tête en 2016, selon la Banque mondiale. Au Bénin, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, s'apprête à financer un projet hôtelier à hauteur de 7,4 milliards de francs CFA, selon Ecofin. Le coût global de cette réalisation est estimé à 50 milliards de francs CFA. Il servira à la construction et à l'exploitation du Marriott Hotels and Resorts, un complexe hôtelier 5 étoiles à Cotonou.
À présent, c'est l'heure d'accueillir Nicolas Pineau pour les sports. Bonjour Nicolas.
Bonjour John, bonjour à tous.
On va commencer tout de suite par le feuilleton autour du match Afrique du Sud-Sénégal qui se poursuit.
Oui, souvenez-vous, cette rencontre avait été remportée 2-1 en novembre dernier par l'Afrique du Sud suite à un pénalty imaginaire. Depuis, l'arbitre a été suspendu à vie et la FIFA demande à rejouer cette rencontre. Oui, mais voilà, la Fédération Burkinabé de football contre-attaque et annonce avoir saisi le tribunal arbitral du sport. La FBF, dirigée par Sita Sangaré, dénonce une violation des règlements de la FIFA. Affaire à suivre donc.
Football encore avec le tournoi de l'UFOA. Aujourd'hui, place à la 3e et dernière journée des matchs de poule.
Dans le groupe A, le Nigeria a été condamné à une victoire face au pays hôte. Le Ghana, déjà qualifié après 2 victoires. Eh bien, les Super Eagles se s'imposent 2-0 et se qualifient pour les demi-finales du tournoi en compagnie des Black Stars. La Guinée et le Mali sont éliminés après leur match nul, un but partout. À suivre ce mardi dans le groupe B, le Niger leader face au Bénin qui en a pris 4 lors du précédent match face au Sénégal et la Côte d'Ivoire face à ces mêmes Sénégalais.
Ousmane Dembélé en Finlande.
Et oui, l'ailier de Barcelone, le joueur le plus cher du championnat espagnol, est arrivé hier à Helsinki où il doit être opéré ce mardi de sa rupture du tendon de la cuisse gauche. Samedi, Dembélé était sorti au bout de 25 minutes lors du match face à Getafe. Il sera absent 3 à 4 mois selon le club catalan. On se rappelle son transfert spectaculaire, presque 147 millions d'euros, ce qui met donc le club catalan dans l'embarras.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Linden. Place à présent au dossier du jour et on commence par la RDC. Où Beni, zone plutôt calme depuis 2005, est devenue le théâtre d'un des conflits les plus violents du pays. Une vague mystérieuse de tueries de masse, principalement à la machette, a plongé la région dans une brutalité jamais vue dans cette zone, avec un nombre de morts estimé à au moins 800 et plus de 180 000 déplacés depuis le début de la principale vague de violence en octobre 2014. Le groupe d'études sur le Congo vient de publier un rapport sur le sujet. Pour plus d'explications, Claire Morin-Gibour a joint son directeur, Jason Stern.
Je pense que tout d'abord, il faut souligner l'extrême brutalité de ces attaques qui ont eu lieu entre 2013 et fin 2016. Il y a de la violence, malheureusement, un peu partout à l'est du Congo. Mais ces tueries étaient quand même exceptionnelles. Ça a choqué la nation congolaise, ça a choqué la communauté internationale. On a tué des femmes, des enfants. Il y avait des tueries avec plus de 100 victimes, souvent tuées avec des machettes et mutilées. Et donc, la brutalité extrême, quand même, était frappante. Et en même temps, jusqu'aujourd'hui, il n'avait jamais eu une investigation compréhensive et fiable dans ces massacres. Et donc, les auteurs des massacres étaient restés sans identité.
Alors, vous avez mené l'enquête et qu'avez-vous découvert?
Alors, le discours officiel et repris souvent dans les médias, c'était qu'un groupe rebelle islamiste ougandais, les ADF, étaient responsables des massacres. Notre rapport révèle une réalité beaucoup plus complexe et probablement plus troublante. Les ADF étaient bien impliqués dans des nombreux massacres, mais il est aussi clair que plusieurs autres réseaux d'acteurs qui se chevauchaient étaient impliqués. Parfois en collaboration, parfois en compétition. Surtout, nous avons trouvé que l'armée patriotique congolaise ou des anciens officiers proches de cette rébellion, qui dans le temps était gérée par Mbousse Nyamwisi, ont lancé des massacres qui ont débuté en 2013. Donc c'était un groupe rebelle ou un groupe proche de l'opposition qui l'avait fait conjointement avec l'ADF, donc ces groupes islamistes ougandais, et des chefs coutumiers locaux. Mais à un certain moment, mi-fin 2014, les officiers de l'armée congolaise de l'opération Sukola 1, dirigée par le général Mwindo Akili Mwondos, ont pu pénétrer ces réseaux. Mais au lieu de traduire les auteurs en justice, au lieu de démanteler ces réseaux, ils ont coopté ces réseaux et aggravé la violence afin de contrôler leurs rivaux, dont toutes les parties ont profité en accusant l'organisation étrangère islamiste pour les meurtres.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce travail d'enquête?
Pour moi, la violence autour de Beni illustre la complexité et le cynisme du conflit congolais. Des massacres ont été lancés par les insurgés congolais en collaboration avec les chefs locaux. Mais au lieu de démanteler ces réseaux, des officiers de l'armée nationale ont décidé de les coopter et d'intensifier la violence. Pour moi, c'est quand même très cynique. Ce qui marque ou me marque aussi, c'est l'insuffisance des réponses à cette violence, et du côté congolais et du côté des Nations Unies. Il faut souligner que pendant tout ce temps-là, ou pendant la grande partie de ce temps-là, la mission de maintien de la paix des Nations Unies avait fourni un soutien musclé à l'armée congolaise. Et donc, ça démontre la manque de compréhension de la mission des Nations Unies et ça montre aussi l'insuffisance des autorités congolaises pour traiter ce problème.
Jason Stern, directeur du groupe d'études sur le Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Mali, le G5 Sahel est au cœur du débat alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un appel à la communauté internationale pour soutenir l'opérationnalisation de cette force. De nombreux Maliens ne cachent pas leur inquiétude face à cette force dont ils craignent qu'elle ne devienne finalement comme toutes ces autres forces en présence au Mali. Kassim Traoré.
Le commandement de la force du G5 Sahel est désormais opérationnel au Mali, plus précisément à Mopti Sévaré. Les chefs d'état-major des différents pays ont même fait leur première réunion sur le déploiement des 5000 hommes attendus. Le professeur Lamine Sandy Aïdara espère que cette force va répondre aux attentes des Maliens.
Le G5, c'est bienvenu, hein, sous réserve qu'il réponde à nos attentes. Nos attentes, c'est quoi? C'est arriver à éliminer définitivement les djihadistes au nord et au centre du pays.
L'économiste Daou trouve que le G5 Sahel est un regroupement hétérogène, avec des pays qui n'ont pas les mêmes perceptions dans la lutte contre le terrorisme. Le comptable explique.
L'intérêt de ces pays-là, c'est les fils des pays qui sont en train de semer les pagailles par-ci par-là. On va essayer de voir par rapport à ces fils des pays, de les réunir et de communiquer avec ces gens-là et de faire un pourparler. Ces cinq pays, on peut dire que ça fait partie des pays les plus pauvres du monde. Pour dire qu'il faut prendre leur G5 en charge, ça serait un peu difficile. Mais cette fois-ci, on a entendu parler d'une réunion au niveau des États-Unis pour les réunions des Nations Unies pour pouvoir chercher des appuis. Donc, est-ce que ça, c'est nécessaire encore? Est-ce que c'est une réunion entre nous-mêmes et dialogue entre nous?
La force conjointe du G5 Sahel vient s'ajouter au casque bleu de la MINUSMA et à la force Barkhane. Tchekoro Keita, administrateur de l'action sociale.
Malgré la présence du Barkhane et des MINUSMA, je pense que cette force aura aussi son rôle à jouer parce que ce sont ces éléments-là qui vont aller combattre les terroristes. C'est une initiative à saluer vu que actuellement combattre le terrorisme n'est pas facile. Surtout, un seul pays ne peut pas faire face au terrorisme. Il faut la conjugation des efforts. Moi, je pense qu'en tant que Malien, moi, je suis optimiste. Je pense que cette nouvelle force va arriver à bout de ses missions.
En tout cas, le commandement des hommes de la force conjointe est confié au Mali à travers le général Didier Dakou.
Moi, je ne partage pas ce point de vue. Le commandement n'aurait dû pas arriver au Mali. Je n'ai rien contre le général Didier Dakou, mais je crois que l'élégance voudrait que ce soit un pays qui ne soit pas concerné directement par cette histoire. Le commandement, j'ai peur que ce ne soit pas le même commandement quand il s'agit du Mali, quoi. Faut vraiment donner une forme et un contenu à ce commandement. Que les forces soient dans les conditions et que les ordres soient respectés et que la discipline soit de rigueur.
Une réunion des pays du G5 Sahel est prévue à New York en marge de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale. Ibrahim Boubacar Keïta est sur place. Il sera le porte-parole des pays du G5 Sahel en sa qualité de président en exercice de cette organisation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le débat pour ou contre la sortie de la zone franc, donc du franc CFA, se poursuit dans une dizaine de pays francophones africains. Kémi Séba, du front anti-CFA, s'est fait expulser du Sénégal au début du mois pour avoir brûlé sur une place publique de Dakar un billet de 5000 francs CFA. Mais les commerçants qui utilisent le franc CFA dans la plupart de leurs transactions se sentaient-ils vraiment concernés par ce débat? Voici les réactions de quelques commerçants du grand marché Tilène de la Médina à Dakar avec Idriss Fall, notre envoyé spécial au Sénégal.
L'argent est le nerf de toutes les guerres. Au quotidien, les commerçants, parfois tout en sueur, courent après la monnaie. Ils sont parmi les premiers concernés par le débat sur le franc CFA. Au cœur du grand marché Tilène de la Médina à Dakar, voici quelques-unes de leurs réactions.
Mon nom c'est Modou Gueye, direct marché Tilène. Tout le monde a parlé franc CFA. Parce que la semaine passée, on a capturé, il y a des gens qui brûlaient les billets de 5 000. Tout le monde est cherché l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais pourquoi un Africain comme ça brûler un billet de 5 000? Parce que c'est pas normal. Parce que franc CFA c'est pour tout le monde. Tous les pays francophones. Il n'y a aucune personne qui brûle les 5 000 francs CFA, mais il faut sanctionner monnaie unique pour l'Afrique. Moi, je suis d'accord. Mais pourquoi pas? Nous sommes des Africains. Il faut organiser monnaie unique qui circule ici. Après, on travaille. Mais quant à franc CFA, avec les Français qui colonisent ça, mais parfois, on a des problèmes. Il faut monnaie unique en Afrique ici. C'est obligatoire. Ok, merci. Dirigeant.
Je m'appelle Souleymane Dibo, commerçant. J'ai fait de la librairie papeterie ici au marché de l'Inde. C'est de l'esclavage continu, quoi. Le franc CFA, vraiment, je trouve que c'est pas un bon monnaie qui nous arrange pas, franchement. Parce que tu me donnes 1 euro simplement, puis échange à 650 francs CFA, ça vraiment c'est déshonorant. Moi, à ma vision personnelle, je voulais vraiment qu'on change notre monnaie, quoi, le franc CFA. Par exemple, je vois tous les pays maghrébiens qui ont leur monnaie unique, ils sont plus avancés que ceux qui utilisent le CFA, quoi. Pour cela que je crois que si on avait notre monnaie unique, ce sera plus bon en tant qu'Africain.
Mariama Seydou Kan, j'habite à Malika, dans la banlieue de Dakar. Vraiment, si c'était en mon pouvoir, le Sénégal aurait sa propre monnaie. Parce que, entre dire que ceci m'appartient et dire que ceci nous appartient, vous savez bien que ce n'est pas la même chose.
Je m'appelle Adama Badiane, je suis entrepreneur. Je fais des multiservices en Casamance. Selon moi, je vais rejoindre Nicolas Agbou, qui avait publié que le franc CFA était une monnaie nazie. C'est une monnaie que les colonisateurs nous ont laissée. Et jusqu'ici, nous, on ne bénéficie pas. C'est le colonisateur qui dévalue quand il veut. C'est le colonisateur qui en bénéficie. C'est quoi une monnaie africaine? Et ça ne fait pas avantage dans le pays. Regarde, par exemple, qui quitte la Casamance pour rejoindre Dakar, une fois en Gambie, qui a besoin de quelques marchandises, il faut changer la monnaie. C'est des pertes. Moi, je crois qu'on doit éliminer cette monnaie. Et pourquoi pas instaurer une monnaie comme eux, les Européens, une monnaie africaine. Pourquoi pas une monnaie du Sénégal comme la Gambie a ça.
Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
La fête annuelle des éleveurs du Niger, la cure salée, s'est tenue ce week-end à Ingal, dans la région d'Agadez. Ingal, une localité au bord du désert à près de 1000 kilomètres de Niamey, la capitale, sert en effet chaque année à la mi-septembre de lieu de regroupement des pasteurs des différentes contrées du pays. Les moments forts de cette fête, dans ce reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa, qui était sur place.
Pas trop loin de la tribune officielle dressée pour le cérémonial d'ouverture se trouve le camp des éleveurs venus à la fête de cette année, la 53e édition de la cure salée. Quelques animaux traînent encore le pas, la majorité étant déjà partie paître dans la vallée de l'Irazer, connue pour sa végétation herbacée et ses sources d'eau riches en sels minéraux. Les éleveurs pasteurs ayant quitté le sud du pays pour cause du début de la saison des cultures hivernales se retrouvent ainsi chaque année dans ces plaines du nord. Medaji Ngol, patriarche natif de Ingal, rappelle l'historique de cette cure salée.
Avant même que l'État ne s'implique, avant l'indépendance, les éleveurs, c'est des manifestations entre eux. Vous savez bien qu'au sud, là, il y a trop d'éleveurs. Les zones pastorales, ils viennent à Ingal. Donc ceux qui viennent à Ingal, ils ont des terroirs d'attache. Ils choisissent Ingal parce que le pâturage salé, c'est ce qui amène les animaux ici. Dans le temps, c'est 3 mois. Les grandes endémies, ils viennent ici, ils font 3 mois à sillonner la brousse. Les services d'élevage aussi. Il y a beaucoup de services qui arrivent au niveau central. Et ils font toutes les activités. Il y a la vaccination, il y a la santé humaine, il y a la sensibilisation, le message de l'État vers la population. Et les populations, leur message vers l'État. Les administrateurs et les administrés discutent ensemble.
Depuis, la rencontre s'est modernisée et a pris un caractère beaucoup plus officiel sans toutefois perdre son côté festif à l'image des défilés et concours de beauté, concours de meilleurs chameaux harnachés et de meilleurs dresseurs de chameaux ou encore les fantasias et autres compétitions. Une vraie ambiance.
La fête cette année a été extraordinaire. Les images se passent de tout commentaire. Et je crois que c'est la bénédiction de Dieu. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fêté de cette manière.
Je suis très content d'être là.
Vous êtes venu d'où?
Moi, je suis venu à Agadez. Par rapport à ce genre de festivités, nous voulons vraiment que le tourisme revienne. Il faut que cette zone rouge-là, qu'on nous colle, qu'elle nous quitte.
Pour le chef du gouvernement nigérien, Brigid Afini, qui est aussi originaire de la zone, la principale leçon qu'il faut tirer de cette édition de la cure salée et l'adhésion visible des populations aux idéaux de la paix et de la sécurité.
L'esprit est exceptionnel. J'ai vu des populations, ça se lit dans leur visage, qu'elles adhèrent aux idéaux qui sont ceux de la paix et de la sécurité. Et ceci, ce n'est pas par hasard si le thème de cette année, c'est le pastoralisme et la paix. Le lien qu'il y a entre les deux est très fort. Si les pasteurs sont d'accord, si les pasteurs adhèrent, vous êtes sûr que nous aurons toute la stabilité dans cette zone.
La fête finit en apothéose sous les belles chansons des femmes touareg. Les troupeaux de bétail ayant fait le plein en sels minéraux peuvent à présent redescendre au sud où après les cultures, les paysans commencent à libérer les champs. Abdelrazak Idrissa, du retour de Ingal pour les rois Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Anne Alberson. Jimmy Cook était à la console. Présentation John Linden, merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page de Facebook, sur VOA Afrique et voafrique.com. Excellente journée à toutes et à tous.